Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 914 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Perpignan, tiens, sur 103.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le muscat d'Alsace, on en parlera, c'est délicieux. Le vignoble de Chambord, eh ben oui, les rois, les rois. Le président du Business Europe, Pierre Gattaz, est parmi nous. Mais alors là, ça sera version Bacchus avec son joli vignoble. Et puis le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bon samedi midi. Tiens, je vous souhaite un bon samedi midi.
Eh ben
alors pour commencer l'émission, vous restez à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal avec Guillaume Poitevin, le propriétaire du château Poitevin. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors racontez-nous, c'est une affaire familiale parce que vous avez beaucoup d'hectares de vignes, hein. Il y en a combien? Plus de 40, hein?
Oui, on a 45 hectares de vignobles dans l'appellation Médoc. C'est une exploitation familiale depuis 3 générations.
3 générations. Et travailler en famille, c'est pas trop dur parce que parfois ça pète les plombs, non?
Non, ça y est, mon père a un petit peu raccroché.
Ah donc, depuis qu'il a raccroché, ça va mieux.
Mais je suis avec ma femme qui s'occupe de toute la partie administrative. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués.
Bon, allez, ça, on embrasse votre femme. Quel est le prénom de votre épouse?
Natacha,
on vous embrasse. Hélène, on vous embrasse aussi, Hélène.
Merci beaucoup.
On s'embrasse tous.
On embrasse tout le monde. Il paraît qu'il ne faut pas s'embrasser.
Oui, bah, écoute, à la radio, on peut.
On mettra un peu de gros plan après. Alors.
À la radio, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, on retrouve Guillaume Poitevin au château Poitevin, à Jaudignac-et-Loirac. Alors, tout le monde ne situe pas Jaudignac-et-Loirac. Ça se situe tout au bout du Médoc, tout proche de l'océan. On s'est quitté la semaine dernière sur une émission où on écoutait chanter les bigorneaux. Bah, écoutez, à mon avis, à Jaudignac-et-Loirac, ça doit être possible aussi.
Vous allez les entendre, oui.
On n'est pas loin de la mer.
C'est ça, on est tout près de la mer.
Et on est au pied de l'estuaire. Voilà.
Voilà. Et donc, effectivement, c'est votre grand-père, Guillaume Poitevin, qui a fondé ce domaine dans les années 50. Mais en fait, il ne faisait pas du vin, essentiellement, cet homme-là. Il faisait du pain. Il était boulanger.
Voilà, c'était le boulanger du village. En fait, c'était la pluriactivité. Donc, ils avaient des vaches, ils avaient la boulangerie. Ils ont commencé à planter un petit peu de vignes. Voilà.
Et puis... votre
père
a enchaîné,
ensuite,
voilà.
A repris donc l'exploitation, s'est consacré à laisser tomber la boulangerie et s'est consacré plus au vignoble. Mais le vin n'était pas fait du tout sur l'exploitation, il a amené ça en cave coopérative. Voilà.
Et c'est vous en 1991 qui avez fait la révolution.
Voilà, et en 1991, j'ai voulu reprendre l'exploitation, je voulais aller jusqu'au bout de du processus, donc en fait, on s'est occupé de créer les chais, et on a vinifié donc toute l'exploitation, et maintenant, on s'occupe aussi de commercialiser l'intégralité de nos vins. Voilà.
Alors, ça fait une assez grosse production, hein, 250 000 bouteilles en moyenne par année.
Voilà, suivant les années, on a à peu près 250 000 bouteilles, voilà. Réparties sur 3 produits, Château Poitevin, Château Moulin de Canot et La Motte Pontac, voilà.
Et puis quelques cuvées peut-être un peu plus confidentielles, je pense à votre cuvée Insula Amphora par exemple.
Voilà, on a une cuvée qui est vinifiée en amphore et où on produit 700 bouteilles.
Qui ne sont pas des amphores.
Et une cuvée de vin blanc, voilà, oui. Où on fait du bord de blanc, où on produit 2500 bouteilles.
C'est ça. Et alors, ce domaine, parmi les nombreuses améliorations que vous y avez apportées, vous y avez porté un très très grand intérêt à tout ce qui est environnemental.
Voilà, on est aujourd'hui, on est certifié, on a 2 certifications environnementales qui sont Terravitis et HVE3. Voilà. On a voulu prendre conscience de notre terroir et le préserver. Donc aujourd'hui et de nos consommateurs également. Donc on s'est appuyé sur ces 2 cahiers des charges qui sont assez restrictifs et voilà qui nous donnent un plus commercial aujourd'hui. Voilà.
Alors ces efforts à la vigne, ils sont couronnés de succès dans les vins. C'est plutôt très chouette. Donc on rappelle les cépages en rouge Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, c'est ça?
Oui, exact.
Et puis en blanc, Sauvignon blanc et Sémillon.
Et
pour vos rouges, bah vous êtes entré au classement des crus bourgeois avec une grosse actualité en 2020.
Voilà, on vient d'être classé club bourgeois supérieur. Donc pour le Médoc, on est une douzaine d'exploitations à avoir été classées en appellation Médoc. Voilà. Et on en fait partie. Voilà,
et ça fait vendre voilà. Ou pas, dites-nous là, Guillaume, on vend plus cher, on vend plus quand on est cru bourgeois
non,
supérieur.
On rassure notre clientèle aujourd'hui. Ça réconforte un peu tout le monde et on est voilà, ça permet de voir que la propriété progresse tous les jours. Et voilà, ça vient aujourd'hui. On ne va pas augmenter les prix, non.
Bon, d'accord, voilà, parce qu'on était quand même très inquiets.
On va rassurer nos clientèles qu'on est toujours dans une politique de qualité.
De prix raisonnable, quoi. Avant le coup de cœur.
De bon rapport qualité-prix.
Excellent, voilà. D'ailleurs. Avant le coup de cœur d'Hélène Pio dans votre gamme de vins, il y a un élément qui est important, c'est le bouchage des vins. Comment vous faites pour que ça tienne bien quand on vous achète des bouteilles, qu'on soit très heureux dans 6 mois, 1 an, 10 ans,
voilà,
20 ans, 3 siècles
Ça fait partie de notre politique aussi qualitative. On fait très attention au bouchage. Donc en fait, on emploie aujourd'hui des bouchons techniques, si on peut nommer Diam, voilà, qui sont exempts de coups de bouchons. Et en plus, on arrive à réguler le passage d'oxygène, donc qui est très important pour le vieillissement des vins, et notamment des vins blancs.
D'accord. Bon, donc là, c'est voilà. Toute sécurité. Quand on achète vos vins, tout va bien. Hélène, donc, c'était compliqué de choisir.
Voilà.
C'était compliqué, Hélène, de choisir un coup de cœur parce que tous les vins sont bons. Vous avez réussi à en trouver un qui est encore meilleur que les autres.
En tout cas, à mon goût. Moi, j'ai craqué pour un cru bourgeois 2016, donc en Médoc. Et voilà, c'était fluide, c'était élégant, grande finesse. Des tanins encore présents, mais on peut commencer à le boire, ça y est, de 2016. On se fait plaisir. Un magret de canard. Et les premiers légumes primeurs, là on est au printemps depuis 2-3 jours, il faut en profiter. Franchement, avec des
et
petites
fèves.
Et combien
ça vaut la bouteille, vous dites
une dizaine d'euros, c'est
ouais,
ça
c'est... Guillaume, combien
la
elle vaut
bouteille,
sa bouteille
en Château Poitevin, ça vaut 14 euros consommateur.
Ouais, c'est oui, vraiment c'est très intéressant. Bravo Hélène, merci également à vous, Guillaume. Invino sur Radio retrouve à présent David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler du vignoble de Chambord. Royal aujourd'hui, David.
Alors, Royal, et puis j'aime bien la symbolique de ça, parce qu'il faut quand même remonter l'histoire. En 1518, le roi François Ier décide de créer ce château qu'il a décrit « bel et somptueux édifice ». Alors, il faut savoir que le château n'a jamais été habité. C'était une sorte de bâtiment d'apparat. Dessiné par Léonard de Vinci, qui enterré pas très loin à Amboise d'ailleurs, dont on a fêté l'anniversaire cette année. Et puis, il y avait un vignoble. Donc, François Ier a voulu implanter de la vigne. Il a importé de Bourgogne 80 000 pieds de vigne d'un cépage dont on parle très peu aujourd'hui, mais qui existe toujours en Val-de-Loire, mais plus en Bourgogne, le Romorantin. Oui. Donc, ce qui a donné aussi nom à une ville, le Romorantin local. Alors, ces 80 000 pieds de vigne, elles ont évidemment disparu dans le fil de l'histoire, et probablement les dernières avec le phylloxera dont on a parlé récemment. Mais en 2015, le château, qui est un bien d'État, hein, ça nous appartient. Nous, les Français, si je puis m'accoler à cet ensemble.
Bienvenue
si
à la maison. Acceptons-nous.
Merci. Depuis 47 ans.
Enfin, vous devenez raisonnable, David, c'est bien.
Je le vaux bien, je dis. Donc, on a décidé de recréer un vignoble. C'était une belle entreprise et on a planté successivement 14 hectares à 1,5 km du château. D'ailleurs, j'ai visité le vignoble tout récemment. On a une très belle vue du château à travers une espèce de trouée dans les bois parce que le château est entouré d'une magnifique forêt et le vignoble est dans une pente assez douce. Avec du bois autour, quelques bâtiments d'exploitation qui étaient les bâtiments de ferme de Chambord, et on a fait un chai provisoire dans un de ces bâtiments de ferme. Aujourd'hui, d'actualité est que les travaux viennent de commencer sur un nouveau chai qui va être dessiné par l'architecte célèbre Jean-Michel Wilmotte. Je suis un peu mitigé sur ce truc. Il va faire un espèce de machin rond avec, j'ai vu la maquette, avec du bois autour. Bon, c'est bien que ça soit pas du béton brut. Mais je me demande si dans ce cadre-là, un bâtiment plus modeste n'aurait pas été plus approprié. Bon, En tout cas, un architecte prestigieux, ça a dû coûter cher. Je pense qu'on aurait pu le dépenser les sous autrement. Avis personnel. Cela dit, le vignoble est jeune, on commence à produire du vin, et il y a un homme qui était très important dans l'approvisionnement et la conception du vignoble, c'est Henri Marionnet, vigneron de Soins sur Sologne, pas très loin.
Qu'on salue, parce qu'il a vraiment des vins extraordinaires.
Il a fait des choses magnifiques, et il a sourcé les plantes, et notamment le Romorantin, parce que c'est lui qui a acheté, il n'y a pas très longtemps, en 2012, un vignoble historique de Romorantin, qui fut planté en 1820, et qui un des rares vignobles à avoir survécu au phylloxéra en France. Donc il a pris des bois là-dessus, il les a fait reproduire par un pépiniériste, donc on a planté du Romorantin, qui est quelque part aussi ancestral, même si ce n'a pas 500 ans. Donc le vignoble a été planté d'abord de Romorantin, de Pinot Noir, de Sauvignon, de Gamay, et d'un cépage dont je n'ai jamais entendu parler, le hors-bois.
Hors-bois.
Philippe, vous connaissez le hors-bois? Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui. Vous pouvez nous en jouer, du hors-bois?
Exactement. Hors-sol, hors-champ, hors-bois.
Ouais.
Non, c'est un vieux, on en trouve très quelques cépage, traces, ouais. On en trouve un peu quelques traces, surtout autour de Tours.
Oui.
Où il y a
donc c'est un cépage local. Hein,
c'est un cépage local, exactement. Ouais. Mais c'est très très rare, et j'avoue que j'en ai rarement goûté dans ma vie. Mais certains vignerons en ont encore un petit peu quelques plants.
Donc on va faire des blancs et des rouges. Les rouges vont être un assemblage Pinot Noir et Gamay, sous l'appellation Cheverny. Et puis le Romorantin, il a une appellation à part qui est l'AOP Cheverny quelque chose, non ?
Cour-Cheverny,
c'est Cour-Cheverny. Ça. Cour-Cheverny pour les blancs. Donc tout ça, c'est un travail en devenir. Hein. Les premiers vins viennent d'être faits. On a fait 75 hectolitres, hein. Donc c'est tout petit
c'est
pour
le début,
l'instant.
Quoi, hein,
c'est
oui.
Le début, parce que les plantations ont été faites successivement, mais aujourd'hui, il y a 14 000 hectares. Et je trouve ça très bien, d'autant plus que les premières vignes ont été plantées par l'ensemble du personnel qui travaille sur le château et sur le domaine.
Sympa, quoi.
Alors le domaine est évidemment très touristique, très visitable. Je vous souligne quand même cette magnifique escalier à double hélice qui est vraiment la gloire de ce château au milieu. Moi, je trouve que le reste, c'est un peu too much, c'est un peu le château de milieu une nuit. C'est pas le plus
qu'est-ce
beau.
Qu'on détruise deux, trois ailes, peut-être,
non,
pour
voilà,
faire plaisir, non
casser c'est... un peu les tours. Et Chenonceau est quand même plus
un
beau.
Un peu de béton,
mais, quoi. Un peu de béton,
alors,
quoi.
Tout ce qui a été fait autour, tout ce qui était fait autour est magnifique. Et on a converti un ancien espèce de relais poste hôtel modeste dans un très joli hôtel maintenant. Toute la visite est splendide, très bien organisée. Donc allez-y à Chambord et visitez le vignoble aussi.
Merci beaucoup David Cobol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine pour cette émission publique et également délocalisée avec David Cobold et le Vino Quiz.
Donc je rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question vachement difficile sur le vin et le vainqueur gagne, s'il a de la chance, un beau cadeau. Il s'agit d'un livre écrit par Sébastien Durand-Viel.
Lequel, le titre ?
Le livre s'appelle « Vous allez enfin vous y connaître enfin ».
Bon, très bien. Alors, la question la semaine dernière, David.
Alors, la question fut, dans quel pays Crimena, Lhasa, était l'originaire ? Option A, France. Option B, Panama. Option C, Guadeloupe. La bonne réponse étant la B, fut née au Panama.
Au Panama, très bien. Cette semaine, David.
La nouvelle question de ce week-end est, quel a été le classement de château Poix-de-Vin en 2020 ?
En 2020, cette année.
Cru bourgeois.
Oui.
Option ?
Option A.
Option A, cru bourgeois supérieur. Option B, cru bourgeois inférieur. Option C, cru petit bourgeois.
Petit bourgeois, voilà. Donc c'est 1, 2, 3 ou ABC et alors...
ABC. La bonne réponse marquée A, B, C ou 1, 2, 3, comme vous le voulez. Et pour répondre et gagner ce magnifique livre, vous allez enfin vous y connaître en vain. Vous répondez très vite sur le site InVino Radio TV, rubrique Vino Quiz.
Merci beaucoup David Cobold. InVino sur Radio retrouve maintenant Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie de Pierre Catas, président de Business Europe. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors avant de parler de votre vin, parce que c'est le sujet, on vous connaît bien comme ancien président du MEDEF, mais aujourd'hui Business Europe, ça représente quoi ?
Ça représente tous les patronats de l'Europe, c'est-à-dire en fait les 27 pays, 26 maintenant, non 27 puisque le patronat anglais reste avec nous. Et donc c'est la force économique, c'est la voie économique.
Ça c'est une connerie qu'ils n'ont pas fait.
Ça c'est une connerie qu'ils n'ont pas fait, exactement.
On ne peut pas tous les faire non plus.
C'est bien avec nous. Alors racontez-nous votre histoire de vin, vous y pensez depuis longtemps, vous avez cherché longtemps un vignoble et où êtes-vous installé ?
Mais je suis installé en Provence, dans le Luberon. En fait la Provence, j'allais me promener, chercher des fossiles quand j'étais gamin, j'adore cette région. région. Et je cherchais après le MEDEF une thérapie, parce que quand on fait 5 ans de MEDEF, il faut une belle thérapie.
Et donc, la zénitude aussi.
C'est de la zénitude, voilà, du retour aux terres, du retour aux sources, du retour à la nature. Et donc, le vignoble, c'est ça. Et en Provence, c'est une région que j'adore. Et je suis c'est un hasard. J'ai trouvé cette propriété qui s'appelle Château de Sannes, à côté de Cucuron, Pertuis. Il y a 70 hectares, mais 35 hectares de vignes. Et donc, il y avait tout à refaire, car la propriétaire précédente vendait ses grappes aux coopératives du coin.
Ouais, c'est ça,
donc, je suis arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans, et avec la famille, donc j'ai 4 enfants de 25 à 35 ans, mon épouse, on descend tous les 15 jours.
Parfois, et vous bossez
jours, et on bosse. Et on n'arrête pas de bosser, parce que c'est du travail. Ouais. Il faut tout recommencer. Donc, on a recréé des étiquettes, le vin, on a pris des œnologues du coin, on a pris des artisans du coin, parce que je suis très attaché au terroir et au territoire, et j'ai une obsession pour l'emploi en France, comme vous le savez peut-être, et qui fait que là, on a embauché des gens du coin et on fait travailler les gens du coin avec un vigneron qui a 30 ans d'expérience sur le terrain. Et donc, on a une petite équipe de 5-6 personnes maintenant. Et on a fait les deux premiers rosés, on a fait un grand blanc de Sannes et on a sorti le rouge après 12 mois de vinification en
Hélène.
Et puis alors, vous disiez effectivement 35 hectares de vignes. Vous avez également 1,3 hectare d'oliviers. Vous faites de l'huile d'olive aussi.
Oui, des aglons d'eau, 320 oliviers, absolument.
Et vous faites du parfum. Alors là, j'ai pas compris.
Alors en fait, si, je vais vous dire, c'est opportuniste. J'ai eu la plaisir d'accueillir Jean-Claude Elena, qui était l'ancien né d'Hermès pendant 20 ans, celui qui a créé Terre d'Hermès, etc. Il est venu et il a senti des arômes. Et j'ai trouvé qu'on mettait en valeur, là aussi, la fleur de vigne, le jasmin, les roses, les magnolias qu'il y a dans le parc, en fait, la Provence, etc. Et en fait, il m'a dit, ça m'inspire, je vais vous faire un parfum. J'ai dit, formidable, on fait un parfum. Alors, on est très très humble dans tout ça. Ce sont des métiers, moi, que je ne connais pas, je l'avoue. Donc, je m'entoure des spécialistes. Et je me suis dit, j'espère que ça va pas me coûter une fortune, cette histoire-là.
Ça, c'est possible.
Pour le parfum, si vous voulez, c'est de nouveau l'expression, si vous voulez, d'un terroir, de la nature, des fleurs. Comme vous avez dans le vin, avec des arômes formidables que vous trouvez dans le blanc, dans le rosé, etc., dans le rouge, je trouve que là, vous avez de nouveau l'épanouissement. Dans un verre de vin, vous avez tout. Vous avez le terroir, la géographie, la culture, l'histoire, les métiers du vin. Dans un parfum, vous avez beaucoup de choses qui ressemblent à ça aussi, sauf que vous ne le buvez pas.
Et alors, ce château de Sannes, donc vous disiez, ça y est, vous avez sorti vos premières cuvées en blanc et en rosé. Celle de rouge va attendre encore un petit peu ?
Non, elle est sortie, on l'a mise en bouteille il y a 6 semaines maintenant, 8 semaines, et donc on peut le boire. C'est un rouge qui est resté en barrique pendant 12 mois et qui est composé surtout de Syrah à 80% et Grenache noir à 20%. Et donc voilà, de bonne facture comme les autres, mais je suis mal placé pour vous en parler. Moi, je trouve que ce sont des vins formidables.
Oui, non, mais je peux comprendre.
Je n'ai jamais entendu un vigneron dire que son vin était imbuvable.
Je ne me souviens pas à l'antenne avoir accueilli quelqu'un qui disait, bon, c'est pas terrible ce que je fais, mais parlez-en, soyez sympa.
Oui, mais enfin, bière est un néo vigneron, ça c'est important. Hein.
C'est un jeune. On le sent quand même habité et passionné par ça.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui, ça c'est.
Moi qui suis allé sur place, j'ai pu constater qu'effectivement c'était le cas. Et en famille.
Tout le monde bosse.
On assemble les vins, on les goûte. Ouais. Alors on les goûte sous l'œil et l'expertise de gens qui sont très compétents. Mais c'est vraiment sympa de faire ça aussi en famille, de se dire, tiens, on fait ça régulièrement. Tout l'automne, on passe du temps dans les éprouvettes à les tester, etc. 100%, 80%, 40%.
Et pour la vente, ça marche bien, Pierre. Alors vous les vendez bien aux bouteilles quand on a été président du MEDEF, ça aide ou au contraire c'est un frein?
Non, mais c'est compliqué. Non, mais c'est une aventure. D'avoir un vignoble, c'est une aventure. C'est une aventure parce que vous avez. Alors, vous retrouvez les réflexes de industriel que je suis, c'est-à-dire vous faites de la créativité, de la création, ça c'est le vin, c'est l'assemblage, vous faites du process, et ça c'est extrêmement important d'avoir un très bon vin de qualité, de suivre le process, les critères, les températures, l'acidité, etc., que j'ai appris à connaître. Puis après, vous avez tout le troisième domaine, la vente, la promotion, le marketing. Et là, c'est pas parce que vous appelez Pierre Gattaz que vous le vendez votre vin, pas du tout. Les gens sont sympas, ils m'en achètent 2-3 bouteilles parce qu'ils sont gentils, c'est des copains, etc.
Mais et puis après, ça peut toujours servir.
On est dans le monde professionnel, si vous voulez, c'est un monde professionnel. Et que je trouve formidable parce que les gens sont très sympas dans ce monde-là. Ce sont des entrepreneurs de base qui connaissent le métier, qui connaissent la difficulté économique. Et en fait, il faut trouver les bons réseaux, il faut faire déguster.
Le tourisme, Pierre, ça vous parle ou pas?
Oui, alors ça me plaît beaucoup aussi parce que je crois qu'autour du vin, vous avez tous les métiers du vin, vous avez la nature. Donc nous, au Château de Sannes, on n'est pas parti du tout dans les œuvres d'art, etc., comme certains que j'apprécie.
Bien sûr, c'est tout à fait louable.
Nous, on est sur le bien-être, on est sur sur la nature, sur les arbres. Je suis un passionné d'arbres depuis que je suis gamin. Et donc, en fait, l'idée, c'est peut-être de faire découvrir. On est en train de faire des sentiers de bien-être naturel, d'énergie dans le domaine. On ira faire visiter les vignes, bien sûr. On a un vieux moulin du 18e siècle rénové. On a des choses très intéressantes dans ce domaine. Et donc, je suis en train de peaufiner quelques balades intéressantes avec des spécialistes, parce que j'ai des gens qui connaissent en truffes. Donc on a une truffière de 1 hectare qu'on est en train de réhabiliter, j'ai une livrée, voilà. Donc il y a des choses à faire, et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire que les gens viennent au caveau de vente qui est en train d'être fini
pour l'été, j'espère, pour vous, Pierre.
Non, mais c'est fini au mois de mars. Donc, c'est en train d'être terminé.
Dans une semaine, c'est terminé.
Voilà, exactement.
Hélène, pour terminer, une dernière question peut-être.
C'est très beau d'être proche de la nature, mais alors j'ai entendu parler de bio. Est-ce qu'on ira jusqu'à la biodynamie?
Alors, si vous voulez, la conversion bio, on est en cours. Il faut 3 ans pour être certifié bio, donc on a tout fait. Là, on est dans la deuxième année. Donc l'année prochaine, je pourrais afficher un vin bio. La biodynamie m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous parlez aux vieux vignerons, aux vieux paysans, ils font attention à la nature, à la position de la lune, aux planètes, etc. Alors, il y a des trucs que je ne comprends pas, les excréments de vaches.
Il n'y a pas que vous, rassurez-vous.
Mais si vous voulez, quand vous parlez à des passionnés
de bio...
Personne
ne comprend.
Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être le plus proche possible de ces choses qu'on ne comprend pas encore, mais que des vignerons, des paysans transmettent de génération en génération. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et quand vous êtes proche de la nature, vous écoutez ça aussi.
Bien, pour terminer, donc une adresse, un site internet pour venir vous voir.
www.chateaudesannes.fr, et il y a tout dessus sur ce.
Et la ville la plus proche.
Et la ville la plus proche, c'est Pertuis. En fait, c'est très simple, c'est Aix-en-Provence. On prend l'autoroute jusqu'à Sisteron et vous sortez à la sortie Pertuis, c'est à 10 minutes de Pertuis.
En tout cas, bravo.
C'est Luberon Sud,
En Suisse même.
Bravo.
C'est
à côté d'un
château de un village magnifique, un château très beau.
Petit village. Alors c'est de très belle région, c'est le Luberon.
C'est beau ça. Merci beaucoup, Hélène. Merci également à vous, Pierre. Invino Sud Radio retrouve Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Alors là, on change de région, mais on reste dans les produits gourmands. C'est joli. Muscat d'Alsace.
Oui, l'Alsace est une très très jolie région gourmande, un peu canaille aussi. On y trouve plein de choses. Mais oui, on y trouve vraiment de choses de à la fois à manger, à boire et en même temps à visiter. C'est la première région qui a développé l'œnotourisme, grâce notamment au système germanique qui avait organisé un petit peu ces visites. Et les Alsaciens s'en sont bien inspirés. Les villages sont fleuris, accueillants, et les vignerons se sont organisés pour accueillir. Oui, exactement. Avec leur fameux Weinstub, entre autres, et de faire découvrir les spécialités locales. J'ai eu envie de vous parler d'un cépage qui n'existe pas qu'en Alsace, qui n'est même pas originaire d'Alsace, mais qui s'appelle le Muscat, et Muscat d'Alsace en particulier, qui n'est pas une appellation, puisque l'appellation c'est Alsace. Et on peut ajoindre effectivement le nom des cépages, Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris ou autre que vous connaissez. Alors ce Muscat d'Alsace, il a quoi comme spécificité? C'est un Muscat en général. Il y a deux types d'ailleurs de Muscat d'Alsace. Il y a le Muscat à petits grains et le Muscat autonnel. Et en fonction du cépage utilisé, voire de l'assemblage des deux, on n'a pas nécessairement les mêmes vins. D'une façon générale, ça donne des vins qui sont très fruités. C'est le seul cépage qui garde effectivement ses caractéristiques de fruits, même après la fermentation, avec des tioles particuliers, notamment le côté raisin frais, des arômes d'agrumes, des arômes de fleurs également du verger. C'est vraiment extrêmement agréable et extrêmement identifiable, un peu comme le cépage Sauvignon, qu'on évoque souvent, qui est un cépage assez accessible, presque un peu éducatif. Le Muscat a cette caractéristique-là. Il existe en sec, c'est à mon avis vraiment l'intérêt d'ailleurs des muscats d'Alsace, mais on peut les vinifier également en vendange tardive, voire en sélection de grains nobles. Mmh. Ça reste très confidentiel et donc un peu marginal en termes de production, mais sachez que ça peut exister. Mais c'est plutôt du sec dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui. C'est un vin qui s'accorde d'abord très bien en gastronomie, avec des produits compliqués. L'asperge, par exemple, qui est toujours infernale associée, parce que
c'est compliqué,
ça fait ressortir le côté végétal, presque un peu métallique, avec une amertume qui est un peu forte. Sur le fruité du muscat d'Alsace, c'est pas le seul cépage qui fonctionne. Le Viognier va très bien, par exemple. Certains chenins peuvent se sortir avec les honneurs, mais le muscat d'Alsace est particulièrement adapté. Et là, on arrive dans la pleine saison de l'asperge, on y arrive. Dans le Luberon, cher notre ami Pierre Gattaz et à sa famille, il y a les premières asperges du Luberon qui sortent.
Le test de l'asperge.
Mais c'est vrai, c'est un vrai test gustatif, ça. Mais ailleurs également, on trouve des asperges.
Et c'est très bon, l'asperge.
On a cité plus souvent dans nos dernières émissions notre ami Henri Marionnet, du côté de Soins-Solonne. Il y a des sables magnifiques pour l'asperge, dans le sud-ouest également.
Mais où on fait plus d'asperges?
Particulièrement bien. On en fait
quasiment plus.
Quasiment plus. J'ai eu la chance d'en goûter. Mais
concurrencé par les asperges allemandes, beaucoup moins chères.
Quelques vignerons peut-être, Philippe, un ou deux?
Oui, pour faire vite, parce que je sais que le temps nous a compté. Marcel Deiss, un peu incontournable qui fait un muscat magnifique, même si c'est pas sa spécialité de faire des monocépages. Albertmann, franchement, c'est un travail de haute volée avec des muscats ciselés extrêmement fins.
C'est toujours précis.
Une vraie capacité de croquant. Et puis terminer avec Véronique et Thomas Muret au Clos Saint-Andelin, qui sont, font un des muscats des France sur des cailloux. Ils ont une cuvée qui s'appelle Steintrop.
À ne pas louper. Merci beaucoup, Philippe Orbach. Merci également à vous, Hélène Piau, Pierre Gattaz et David Cobold. Fin de ce numéro. Merci Angéline et Charlotte, ainsi qu'à Sébastien. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
InVino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.